Colloque éthique. Conclusion.
Oui, on termine ce magnifique colloque avec Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre.
À tous.
Vous êtes en plateau avec Sophie de Menton, présidente d'Éthique. Sophie de Menton, à côté de Loïc Le Floch-Prigent, capitaine d'industrie. Et vous avez entendu les débats, il y a un terme qui revient régulièrement, c'est le terme de souveraineté. On a bien le sentiment que la souveraineté intégrale, ça fait rêver plein de gens. Mais est-ce que vous y croyez, vous ?
Je ne crois pas à la souveraineté intégrale. La souveraineté intégrale, c'est le protectionnisme intégral, c'est remonter les frontières partout. Et on voit bien que les virus, qu'ils soient de santé ou politique, ils passent les frontières facilement. Donc on est dans un monde interdépendant. Donc il faut partir de cette question-là. Cependant, on ne peut pas laisser le paracétamol entre les mains d'un pays étranger quand on a mal à la tête. Donc on a découvert avec la pandémie qu'on avait un certain nombre de productions qui n'étaient plus des productions accessibles en France et que nous devenions dépendants. Donc il faut de la souveraineté. Mais comme toujours, dans le monde moderne, ce qui est difficile pour la politique, c'est que les choses sont complexes. Et donc il faut trouver comment on traite notre priorité de souveraineté. Donc pour moi, il y a trois cercles de souveraineté. Le premier cercle, c'est le cercle national. La France, qu'est-ce qu'elle veut comme priorité ? Un jour, j'ai posé cette question au président Macron. Il m'a dit spontanément, par exemple, moi, je veux qu'on ait de l'acier, parce que la France doit produire des automobiles et des avions. L'acier est une priorité nationale pour la France. On peut dire qu'on l'a vu avec la lutte contre le cancer, avec la question du paracétamol pendant la pandémie. On voit bien qu'on aurait intérêt à définir ce que sont les secteurs, les types de production essentiels au pays. Je pense que c'est un beau sujet pour l'organisme que M. Bayrou a été chargé de monter, un commissariat au plan ou je ne sais quoi, enfin quelque chose qui soit de la programmation.
Au commissariat.
Je pense qu'il nous faut des gens, une équipe qui travaille sur l'essentiel pour la France. Ensuite, on a la solidarité, le deuxième cercle européen. Puisqu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut pas être puissant seul. Nous voyons par exemple que l'intelligence artificielle va gouverner le monde. On voit bien que tout ce qui est en train de se passer, pour le moment, les investissements sont chinois et américains. Et c'est un monde qui va nous échapper. La seule façon d'être dans ce monde-là, c'est d'y être de manière européenne. Et donc, quels sont les sujets que nous confions un peu à l'Europe pour que nous trouvions en Europe une force. Et ça, je pense que la transition écologique, la révolution digitale sont des sujets qui devraient faire relever d'une souveraineté européenne. Donc premier cercle, la souveraineté nationale, l'acier, le paracétamol et d'autres priorités. Deuxièmement, les priorités où on a besoin d'un rapport de force plus puissant, l'Europe. Et ça, c'est par exemple le digital et l'environnemental. Et puis troisièmement, c'est ce que j'appelle la souveraineté solidaire, c'est on construit des partenariats. Et on peut acheter des choses à des gens quand on est dans des partenariats stratégiques de confiance, qu'on peut se dire. Bon, et puis là, on peut vraiment choisir notre degré. Par exemple, le paracétamol. On dit, pourquoi c'était dangereux de l'avoir en Chine ? Parce que le jour où la Chine a aussi besoin de paracétamol, elle bloque sa production pour elle-même. Mais à ce moment-là, faisons faire du paracétamol, par exemple, en Tunisie. À notre portée, c'est un pays frère, mais c'est un pays qui jamais a la taille du nôtre et jamais sa production ne pourrait être concurrente de la nôtre, puisque nous avons d'autres types de besoins. Donc on a à réfléchir sur une solidarité, disons, contractuelle, sur une souveraineté contractuelle, de manière à avoir des échanges dans le monde avec des partenaires fiables, avec une organisation. Donc l'idée de souveraineté, elle est très importante, elle est devenue une idée très populaire, mais ne faisons pas croire que c'est en mettant des barrières partout et des murs partout que nous arriverons à un développement harmonieux.
Alors, j'adhère complètement à ce qui a été dit.
C'est déjà un bonheur.
C'est déjà bien.
Je ne suis pas venu pour rien.
Et ce n'est pas nouveau. Toutefois, je n'ai pas entendu prononcer le mot entreprise. Et je suis désolée, il y a une forme de souveraineté qui est celle de l'entreprise. Parce que, dans tout ce que vous dites, il y a des décisions judicieuses, une analyse parfaite. Et puis, il y a les rampants. Les obscurs, ceux à qui on ne demande pas leur avis, parce que pour le paracétamol, je peux vous dire qu'en France, quand on essaye, parce que c'est chimique le paracétamol, or on a des lois, des contraintes qui font que c'est
les
interdit,
principes actifs, ouais.
On l'a dit, les principes actifs, etc. Et on l'a vu pendant tout ce colloque, on est entravé. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on se prive du bon sens du terrain. On se prive du bon sens du terrain, je suis entièrement d'accord. Pourquoi aller faire un commissariat au plan? Il y a combien d'entrepreneurs là-dedans? Combien de PME? Je veux dire, le haut commissariat au plan, pour moi, c'est le symbole de ce qui nous désespère.
C'est vrai qu'on
ne
l'a pas beaucoup entendu avec M. Béraud.
Non,
je veux dire, on a été assez
calme. D'ailleurs, oui, ça, il a été très discret là-dessus. Mais je pense qu'on a un travers, et qui est un travers fondamental, et c'est vrai que c'est mon combat, c'est un étatisme qui fait qu'on est coupé de beaucoup de décisions de bon sens et qu'on se coupe également d'une productivité et d'erreurs que nous ne ferions pas. Donc là, on vient d'en parler au niveau de la souveraineté. Typiquement, en ce moment, il se passe des choses qui, effectivement, sont au niveau des États, et on le comprend bien. On est tous désespérés par l'attitude de Poutine, désespérés par ce qui arrive dans cette guerre, y compris pour le peuple russe. Mais tous décident sans nous. L'entreprise est l'objet, et d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, est l'objet des sanctions. Déjà, les sanctions économiques, moi, dès le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? La sanction économique, dès qu'on a prononcé le mot, j'ai vu les PME disparaître et les gens au chômage. Donc, le mot sanction, Jean-Pierre Raffarin.
Elle est très forte, cette
présidente.
Une sanction
peut en cacher une autre.
Cette présidente, parce qu'elle ramène le débat à son combat. Ça, c'est déjà un talent. Donc, elle ramène à la présence des entreprises. Je ne suis pas du tout opposé à son analyse. Et quand je parle de la révolution digitale, je parle entreprise. Parce que ce sont les entreprises, ce sont les start-up. On va y revenir. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Quand je parle environnement, l'environnement, c'est d'abord et avant tout des entreprises qui portent les technologies qui vont nous régler un certain nombre de problèmes. Donc, je suis complètement d'accord sur ce point, à tel point que ce qui me frappe dans la situation d'aujourd'hui, en élargissant le concept d'entreprise au concept de société civile, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui la place des sociétés civiles dans le monde où ils prennent une importance considérable. On l'a vu d'ailleurs avec la pandémie. Et on le voit d'ailleurs, pour revenir au sujet de Sophie, sur les sanctions. Peut-être que la sanction la plus importante qui a été prise contre la Russie, c'est quand la Fédération de judo a viré M. Poutine de son bureau. C'est quand même quelque chose de très important que le sport se soit mobilisé contre la Russie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Le football, qui n'est pas tellement regardant, il va au Qatar, le CIO qui fait les Jeux olympiques à Pékin. Donc, ils ont sanctionné la Russie. Et donc ça, c'est les sociétés civiles qui prennent la parole aujourd'hui. C'est un fait nouveau et c'est très important. Et je crois que, d'une manière générale, là, je rejoins complètement, je dirais philosophiquement, stratégiquement, le propos de Sophie. Il faut maintenant, quand on parle géopolitique, penser non pas pouvoir, mais penser le partage du pouvoir et notamment la place des sociétés civiles. Alors, on voit bien d'ailleurs que si on veut faire un accueil des réfugiés qui soit à peu près digne, tout ça, ça se fera avec les familles, ça se fera avec les entreprises, ça se fera avec le territoire, ça se fait avec les communes, ça se fera pas directement par le pouvoir central. Alors pour revenir à la question sur les sanctions, j'ai toujours été très réservé sur l'idée de sanctions et au Sénat, on a beaucoup travaillé sur ce concept-là. Naturellement, c'est très difficile de créer un certain nombre d'étapes quand on est en conflit avant la guerre. Parce que la sanction, c'est une étape de tension pour éviter la guerre quand même. Mais il est évident que les sanctions sont toujours biunivoques. C'est-à-dire qu'elles vont dans un sens, mais elles vont aussi dans l'autre. Et donc, celui qui prend des sanctions, il est lui-même sanctionné. Et faisons d'ailleurs très attention. On va voir, je n'ai pas encore l'analyse aujourd'hui de tout le dispositif de sanctions avec son impact partout dans les pays. Mais la dernière fois que nous en avons pris, en 2013, on a bien vu quand même qu'on avait été incité à prendre certaines sanctions par les États-Unis et des sanctions dont les résultats étaient surtout de poser des problèmes à l'Europe. Par exemple, les États-Unis qui livrent beaucoup de matériel sur le nucléaire en Russie n'avaient pas mis les sanctions dans ce secteur-là. Donc, on voit bien que derrière les sanctions, il y a aussi de la géopolitique et qu'il faut être très attentif à ça. Le problème, c'est qu'on a toujours une réponse à l'émotion, donc on va envoyer un dispositif dans l'immédiat. Mais les sanctions ont un retour. Et donc ça, soyons assez vigilants. C'est pour ça que les sanctions qui sont prises avec la société civile, genre exclusion de la Coupe du Monde, genre exclusion des Jeux Olympiques, ont un impact qui est un impact qui, qui ne fait de mal à personne, si ce n'est aux sanctionnés. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, il est évident aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, et il faut essayer de trouver dans cette affaire ukrainienne, qui est une affaire extrêmement douloureuse, qui est une affaire sauvage, qui est une affaire d'un autre temps. On ne pensait plus que c'était possible de faire la guerre comme ça, de tirer sur les civils comme on tire sur les civils, de casser les logements, d'être dans cette, de bombarder quelquefois des autobus de réfugiés. Enfin, on est quand même dans une situation de sauvagerie. On pensait que la civilisation mondiale avait quand même franchi cette étape. Et donc, on pensait à des conflits cyber, à des choses assez sophistiquées. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans le brutal primaire, le plus sommaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour nous. Néanmoins, il nous faut chercher les pistes de paix. Et les pistes de paix, en effet, il faut bien montrer que nous sommes, nous, la France, la culture de la paix. Nous sommes dans la culture de la dissuasion, nous ne sommes pas dans la culture de la guerre. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce que dit Sophie de Menton, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes à la périphérie de ce dispositif, mais nous sommes des militants de la paix. Et notre opposition à Poutine, c'est une opposition sur la paix. Et c'est ça qui doit être le message de la France, et c'est ça le message de nos diplomates. C'est même le message de nos militaires. Quand la construction de la défense française se fait sur la dissuasion, c'est-à-dire que l'objectif de la dissuasion, c'est la paix, c'est pas la guerre. La dissuasion, c'est ne pas avoir à se servir de ses armes. C'est ça le message de la France et c'est ça qu'il faut essayer de développer.
Président, vous êtes un militant de la paix et un militant des entreprises.
Je voudrais reprendre un petit mot qui n'a pas été prononcé, celui de l'indépendance, alors souveraineté, indépendance, un peu différent, et le fait que lorsque un pays choisit d'être dépendant d'un seul pays, il se pose des problèmes. Et qu'en l'occurrence, le fait là que l'Allemagne ait choisi, contre l'avis de tout le monde, de dépendre majoritairement du point de vue énergétique de la Russie, pose un problème à l'Allemagne et pose un problème à l'Europe et pose un problème au monde entier. Parce que c'est là que s'y situe aujourd'hui la sanction la plus évidente. C'est de dire, on arrête que le gaz arrive en Allemagne, et l'Allemagne dit, moi, si jamais on arrête le gaz, j'arrête absolument mon pays. Donc, il y a le concept de souveraineté, d'indépendance, etc., le deuxième concept que vous avez. Je pense qu'il faut bien voir comment on peut choisir sa dépendance et choisir une dépendance multiple. Le fait d'être dépendant uniquement d'un pays, alors par exemple sur l'automobile aujourd'hui, le fait d'être dépendant sur les composants électroniques uniquement de Taïwan peut nous poser un problème à terme. Et par contre, il faut essayer de limiter cette dépendance univoque. C'est là qu'il y a un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est toujours dans le même esprit, c'est que lorsque il y a des entreprises qui sont dans des pays sur lesquels on a des difficultés, il faut bien comprendre que c'est le chef d'entreprise qui est à même de traiter le problème, et non pas les gens à l'intérieur, les commentateurs, les politiciens, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? C'est-à-dire qu'on est dans des pays... Alors, moi, j'ai été dans des pays en guerre. Dans des pays en guerre, je ne demandais à personne ce qu'il fallait faire. J'ai des employés, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ces employés vont continuer à vivre grâce à ce que je fais ou ce que je fais pas ? Donc, il faut laisser les chefs d'entreprise... Alors, on leur donne... Il y a une désapprobation claire de ce que fait le président de la Russie aujourd'hui. Mais le peuple russe, c'est un peuple avec lequel nous sommes en conversation depuis des centaines d'années. Et nous avons aujourd'hui entre 160 000 et 600 et 300 000 salariés en Russie. Il faut bien que nous fassions quelque chose. Foutez-nous la paix. Ah, c'est ça que j'ai tendance à dire. Voilà.
Alors... gentiment, monsieur le Premier ministre.
Je trouve que il y a là deux apports à notre débat très intéressants. D'abord, c'est cette dépendance univoque. C'est-à-dire, là, on change le statut. On n'est plus partenaire, on est vassal.
Donc ça s'appelle mettre ses yeux dans le même panier.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, c'est la pluridépendance qui peut être acceptable, mais certainement pas l'unidépendance. Et donc là, on voit bien, parce que c'est une des problématiques qui sont posées aujourd'hui, où on risque, nous, le camp des démocraties, de mettre Poutine dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Chine, et qui peut être une unidépendance univoque. Donc là, on est dans un statut qui n'est pas le statut de partenaire, qui est le statut de vassal. Et ça, c'est quelque chose que, naturellement, pour ceux qui ont une pensée de l'indépendance, indépendance nourrie par la pensée du général de Gaulle, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'est notre propre liberté d'agir. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point qui est très important, c'est les pays en guerre, dans ce que vous disiez, et donc la liberté du chef d'entreprise. Moi, je crois qu'il faut bien distinguer le pays avec lequel on est en guerre et le cas de guerre. Je pense que quand on est en guerre avec un pays, naturellement, l'entreprise doit se sentir solidaire de son pays. Mais quand nous sommes en situation aujourd'hui où nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, nous soutenons l'Ukraine dans cette affaire avec un certain nombre de règles, des règles qui sont quand même guidées, puisqu'on a quand même parlé d'une menace dont je ne dirai pas le nom ici, mais qui est quand même une des plus graves, et que là, il y a un code dans l'escalade. Et donc, il faut respecter les codes.
C'est quoi le code ?
C'est quelque chose qui est à la réserve du président de la République. Et tous ceux qui en parlent font une erreur. Il n'y a que les présidents qui parlent sur ce sujet.
Monsieur Biden,
il n'y a que lui qui parle de ce sujet. Ces affaires-là sont des affaires essentielles qui sur lesquelles il faut mieux se taire.
Il faut me rassurer. Oui. Est-ce que pour appuyer sur un bouton nucléaire, parce que disons-le, est-ce qu'il y a des sécurités mondiales ? Est-ce qu'il y a une seule personne, en l'occurrence Vladimir Poutine, qui déciderait d'appuyer ? Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle ? Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde entier le fait qu'il y ait deux ou trois personnes qui peuvent l'arrêter ? Est-ce qu'il y a des process là-dessus ?
Il y a une très grande expérience des uns et des autres sur ces sujets où tout le monde travaille énormément. Et donc, il y a un déchiffrage réciproque des attitudes. Et donc, il y a un langage... Du conflit. Et donc, c'est quelque chose qui est quelque chose...
Et tout le monde est obligé de respecter.
Que tout le monde respecte.
Que tout le monde respecte. Et que la,
on respecte. Et sauf quelques-uns qui ne sont pas au courant.
Et qui exige que la règle, dans ce cas, quand on n'est pas le président, c'est le silence. On laisse les présidents faire, c'est au président de savoir.
Il y a des présidents qu'on n'aime pas tellement. Hein.
Mais naturellement, c'est souvent le cas quand on a un ennemi. C'est rare qu'on aime ses ennemis. Donc, c'est quelque chose. Mais je reviens le en guerre, qui est très important. C'est que c'est vrai qu'il faut veiller à ce qu'on ne dérive pas. Et ce mot guerre, on l'emploie. On est en guerre contre
n'importe
le virus,
comment.
On
est en guerre contre tout.
On est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre sur tout ça. Donc, il faut faire très attention parce que la guerre, c'est ce qu'il y a de plus affreux, de plus terrible. Ça détruit tout, ça détruit l'enfant, la famille, ça détruit le droit et la démocratie, ça détruit la République, l'humanité des gens, ça nous rend mauvais. Et donc, soyons très, très attentifs sur tout ça. Donc, je partage complètement ce sentiment qu'il faut laisser dans la société civile, quand on n'est pas en guerre, à des responsables d'assumer leurs responsabilités. On voit bien aujourd'hui que dans les entreprises, il y a toute cette réflexion sur la responsabilité sociale, environnementale, tout ce qu'on dit sous le mot impact. Eh bien, cette confiance-là, c'est au fond de dire au chef d'entreprise, vous êtes responsable.
Il y a 300 chefs d'entreprise français actuellement en Russie. Il faut leur dire, faites pour le mieux compte tenu de la position que
vous avez. Et Sanofi s'est exprimé très clairement. Le patron de Sanofi a dit, moi, je suis désolé, j'ai des laboratoires, des vaccins. Il est hors de question que nous cessions une journée de travailler en Russie.
Mais il y a un mot que vous connaissez bien, Sophie, qui devrait exprimer ça. C'est l'éthique. C'est l'éthique de l'entrepreneur. C'est, au fond,
oui, mais on ne nous laisse tout... pas forcément oui, appliquer notre éthique.
C'est vrai. Mais ce qui est très important, c'est de bien se dire qu'on ne progressera pas sur ces sujets-là par les obligations. On procédera et on avancera par l'éthique. C'est par une sorte de code de conduite que les entrepreneurs peuvent faire. Mais qu'est-ce que c'est qu'au fond, souvent, l'éthique ? C'est une règle. Par exemple, ça peut être l'éthique des médecins. Il y a un ordre des médecins qui est responsable de ça. Donc, il faut laisser les entrepreneurs construire l'éthique du responsable dans un pays qui est en guerre, dans lequel nous ne sommes pas acteurs de guerre. Et c'est cette éthique-là qui doit savoir
Vous êtes au courant qu'on ne nous laisse même pas être éthique en temps de paix. Alors, en temps de guerre, vous pensez bien qu'on est encore plus encadré. Et ce que vous dites est tout à fait juste. La responsabilité individuelle, je ne crois qu'en ça. Il faut arrêter que les politiques demandent la confiance des Français. Il faut qu'ils leur fassent confiance. Et je vous garantis...
Il faut que les entrepreneurs aussi affirment cette ambition éthique.
Regardez, on voulait les tester, leur mettre des masques pendant la pandémie. On nous interdisait tout. On avait des inspecteurs
qui sais que je suis le curé de Cucugnan. J'accuse celle qui va à la messe pour tous ceux qui n'y vont pas. Mais donc, vous battez pour l'éthique, évidemment. Mais ce n'est pas un combat général. Il faut qu'on veut de la morale. Et il ne faut pas croire que la morale sort toujours de l'obligation. La morale, elle vient de la responsabilité.
Bravo.
Et c'est ça qui compte.
C'est ça mon propos. Voilà. Oui, à l'heure actuelle, je considère qu'on nous donne des conseils et que c'est pas la peine de donner des conseils parce que les gens ne sont pas actuellement en Russie avec les salariés.
Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faudrait beaucoup plus insister sur notre éthique de chef d'entreprise.
Absolument.
On n'ose même pas, parce que notre seul interlocuteur à propos d'éthique, c'est l'inspecteur du travail qui doit décider si ma secrétaire doit aller au bureau ou si elle pourrait vraiment faire le boulot chez elle avec une amende.
On est toujours coupable.
Donc on est systématiquement. Non, mais c'est grave parce que cette espèce de complainte lamentable du chef d'entreprise, je vous l'accorde, est systématique. Et grave parce que ça finit par dénaturer. Et d'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés.
Absolument.
Ils sont 80% à avoir confiance dans les entreprises. Ils ne sont plus que 20% à avoir confiance dans la presse et les politiques. Donc il faut absolument redonner. On devient un héros quand on vous donne l'occasion d'y l'être.
Les meilleures lignes rouges, ce sont celles qu'on se fixe soi-même avec éthique.
Alors, effectivement...
Donc justement, choisir un chef, nous l'avons.
Voilà. Comment choisir, effectivement, comment l'industrie peut-elle supporter les à-coups de la politique? Effectivement, il y a 6 mois, on disait, il faut absolument se séparer de la Chine, maintenant, il faut absolument se séparer de la Russie, pour des questions tout à fait légitimes. Je comprends que l'interrogation se pose. Mais sauf que l'industrie, les logiques de marché d'entreprise, elles sont déjà difficiles à suivre pour les entreprises. Donc, si en plus l'industrie doit suivre les à-coups de la politique tous les mois, c'est quand même extrêmement difficile.
Oui, en tout cas, c'est d'autant plus difficile quand on prend des logiques qui sont des logiques de l'immédiat et pas des logiques du moyen et du long terme. Parce que naturellement, si on se laisse piloter par les événements, c'est l'émotion qui gouverne et pas la raison. Et donc, il faut être très attentif à ça. Et donc, il faut trouver des formes de partenariat. C'est dans notre culture française de vouloir parler avec tout le monde. Et donc, la rupture est un échec. Quand on se met en situation de rupture, c'est qu'on a échoué. Donc, il faut se dire qu'il faut naturellement essayer de construire des dialogues, mais des dialogues qui correspondent à nos intérêts. Notre problématique aujourd'hui, c'est d'abord de ne pas s'accuser les uns les autres, que le politique accuse l'entreprise ou que l'entreprise accuse le politique. Les Français, d'élection en élection, depuis longtemps, choisissent le temps plutôt que l'argent. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une aspiration dans notre civilisation à avoir du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français sont dans ce paradoxe-là, qu'ils ne veulent pas d'immigration, mais qu'il y a certains emplois qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, nos restaurateurs, aujourd'hui, dans le bâtiment et ailleurs, sont en déficit de salariés. Ils ont des offres d'emploi non satisfaites. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas une société qui fait du travail une priorité. Et on a fait, au fond, de la qualité de notre vie, ce qui n'est pas un défaut. Mais naturellement, ça a des conséquences. Et parmi les conséquences, notamment étrangères, et enfin pour notre industrie, des départs à l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a construit un système social qui est très lourd à financer et qu'on ne le finance pas avec des petites marges d'entreprise. Et notre industrie, elle a évolué et que ceux qui partaient avant à l'étranger, on avait des industries qui partaient à la conquête. Et là, on a eu des industries qui sont allées chercher un peu de marge. Et en France, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos industries de petites marges ont été remplacées par ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie du luxe, qui ont des très grosses marges. Et les grands fleurons à l'étranger, ce sont des gens qui ont des marges qui sont à la hauteur du financement d'un système social comme nous le voulons. Et donc, les LVMH, les Chanel, les Hermès, toutes ces grandes marques qui font notre fierté, sont des entreprises qui sont adaptées à notre système social. Mais naturellement...
LVMH relocalise, étant
Ils peuvent le faire, ils le feront aussi avec des stratégies, je dirais, d'impact et d'éthique et de contribution à un effort national. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas... C'est les Français Français, on a fait un choix. Les jeunes Français, aujourd'hui, ils aspirent à pouvoir se promener le vendredi avec leurs petits-enfants et ils préfèrent un contrat de 30 heures, un contrat de 40 heures, souvent. Hein.
On n'en est même plus aux 35 heures, on en est aux 30 heures.
Vous avez des grandes industries, j'en connais dans ma région, qui développent des contrats de 30 heures et je connais des gens qui acceptent avoir un peu moins d'argent et avoir plus de temps.
Non, ils n'acceptent pas, mais ils veulent plus de temps. Oui, parce qu'ils acceptent sur le principe et ce n'est pas vrai. Nous, on est cette espèce de temps où on a le droit, le bien-être, au travail, etc. On a vu l'accélération avec le télétravail. Oui. On a un pays qui n'a plus l'énergie. Et maintenant, d'ailleurs, dans certaines entreprises, il n'y a qu'un Français sur cinq qui puisse télétravailler. Ce n'est pas on vous demande, c'est au fait, je ne suis pas là demain, je suis en télétravail. Donc, on a là eu un petit coup de frein en arrière sur le besoin de travailler. Et ce n'est quand même pas à vous que je veux dire qu'il faut qu'on travaille plus.
C'est tout notre problème. Je crois que c'est la culture du travail qui va falloir redévelopper. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut améliorer les conditions de travail. Ça veut dire qu'il y a tout un...
Oui, mais
ce que fait la restauration, par exemple.
C'est le Club Med dans certaines grandes boîtes.
Mais donc, il faut bien se dire que notre sujet, il est là. Je me souviens toujours que Chirac, quand il me parlait de la Chine, il disait, tu sais, part d'un principe. Hein, ils sont aussi intelligents que nous. Ils sont beaucoup plus nombreux. Et ils travaillent beaucoup plus. Donc, on les a devant nous pour un certain temps. Alors, ne crois pas qu'on va les éliminer comme ça. Parce qu'ils sont très intelligents. Ils sont inventifs. Ils sont nombreux. Et ils travaillent quasiment jour et nuit.
Et, donc, et pourtant, les Japonais, qui sont un peu dans le même genre, souffrent d'une récession parce qu'ils ont des problématiques de resserrer sur eux-mêmes.
Oui. Mais c'est ils n'ont pas... Enfin, il y a des différences de culture. Et il y a chez les Chinois aussi un petit côté latin, je dirais. Si on pouvait parler d'un côté...
Affectif même, vrai d'ailleurs.
Oui, plus affectif. Hein, il y a plus de rigidité un peu au Japon. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que là, dans tout ce qui est le retour un peu à cet autoritarisme auquel on assiste en Chine, ça va sans doute freiner leur dynamisme. Hein, parce que les gens ont un peu peur du chef, ils ont peur de prendre des positions. Et quand on donne pas des responsabilités et de la liberté à des gens créatifs, à des gens qui travaillent, ça ralentit tout le système assez vite. Donc là, il y a un certain nombre de... Tout ça pour revenir en France, je pense qu'il faut qu'on revienne à une logique d'industrialisation dans notre pays. Ça veut dire, avant toute chose et tout simplement, d'abord d'aimer l'industrie. Hein, je pense que de toute façon, si on fait de l'industrie un espace du passé, de l'économie, que maintenant c'est simplement l'ordinateur
qui a la
valeur.
Mais c'était plus la sphère. Bon,
c'est au fond, il faut se dire que ce qui devrait être facile d'une certaine manière pour le pays, parce qu'on est un pays qui a beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs très bien formés et des ingénieurs qui sont très respectés extérieurs. Vous voyez, par exemple, souvent les Chinois, ils préfèrent l'image industrielle de l'Allemagne à l'image de la France, mais ils préfèrent les ingénieurs français aux ingénieurs allemands. Ils préfèrent notre éducation, notre culture, ça. Donc on a des atouts pour l'industrie, mais il faut pouvoir commencer par dire que l'industrie... Personnellement, je pense que, Dieu sait si je ne suis pas pour une administration renforcée, mais le fait de ne plus avoir de ministère de l'industrie, de ne plus avoir quelqu'un qui, autour de la table du Conseil des ministres, pense industrie, je pense personnellement que c'est quelque chose qui devrait exister quand même. Simplement pour que dans les arbitrages, on pense à l'industrie.
Parmi les choses que vous ne citez pas et que je vais citer, c'est quelque chose de compliqué. La rigidité actuellement des représentations des salariés à l'intérieur des entreprises, la rigidité conduit à ce qu'il y ait peu de candidats qui aient envie de représenter les salariés. Vous le savez. Et finalement, on a des ensembles formels, des réunions formelles qui ne font pas avancer les choses. Donc, d'une certaine façon, on a le sentiment que les gens ont envie de travailler, qu'ils ont envie de voir comment on peut travailler pour le bien commun et pour le bien de l'entreprise, et que finalement, le nombre d'instances formelles que nous avons de représentation est plus un obstacle qu'une aide. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir finalement trop légiféré au cours de votre période ou est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait ? J'ai l'impression, moi, que le droit du travail, tel qu'il est en train de ne pas satisfaire les salariés et ne nous satisfait pas, nous, en tant que chef d'entreprise. Et que je ne sais pas comment on peut débloquer le système.
D'ailleurs, Sarkozy avait promis de le réformer, personne n'y touche. Sauf on a supprimé récemment les salles d'allaitement. Enfin, je veux dire, c'est des... On a un membre éthique qui écrit le code du travail pour les nuls tous les deux ans. Le code du travail pour les nuls pour qu'on le comprenne tous les deux ans. Mais au-delà de ça, il y a une question que je voudrais vous poser qui me tient terriblement à cœur. et qui a un lien évidemment avec l'industrie et ses emplois que, nous ne, que les Français ne prennent pas. Nous avons pour cela des travailleurs émigrés. Ces travailleurs émigrés prennent ces boulots dans le service, la restauration, les transports, les aides à la personne. Ce sont généralement des travailleurs sans papier quand on parle d'émigrés. Ces travailleurs sans papier se présentent dans nos boîtes, on veut les recruter, et ils arrivent avec les papiers du cousin, de quelqu'un d'autre, ils ont des papiers. Le chef d'entreprise n'est pas là pour faire la police, il y a des papiers, il le déclare, il le prend, le salarié se déclare lui-même, et ils occupent ces emplois, ils sont payés normalement avec les règles françaises, il ne faut pas dire qu'ils sont payés moins, on n'a pas le droit, ils sont déclarés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous employons là, nous en sommes conscients, des gens qui n'ont pas de permis de séjour. Mais que l'État, alors ça, le Premier ministre que vous êtes va quand même réagir, l'État...
Que je fus.
C'est pareil, dans l'âme, on le reste. Que vous êtes. Se dit, voilà, je donne un permis de séjour à un sans-papier s'il peut me présenter 2 ans de feuille de salaire. C'est-à-dire que la schizophrénie est absolue. Si moi, on me pique, chef d'entreprise, j'ai droit à des amendes gigantesques, le type doit repartir immédiatement, ce qui ne repart pas d'ailleurs, mais il n'a plus de boulot. Et pourtant, en même temps, sans caricature, l'État, pour donner des papiers, doit avoir des feuilles de salaire. Je crois que c'est 9, je ne sais plus le chiffre exact. 9 feuilles de salaire, et voilà.
C'est la rigidification absurde.
C'est pire que ça. C'est quelque chose que n'importe quel président ou n'importe quel premier ministre devrait faire sauter à la seconde. Moi, j'exige. Je demande que tout simplement, parce que je peux comprendre qu'on se réintègre par le travail, ce que vous dites est très important. On a besoin de quelqu'un, il a un contrat, il a un permis de séjour du temps de ce contrat. Après, avant, c'est le politique qui décide. Mais c'est quelque chose de fondamental. Je suis stupéfaite. Donnez-moi une réponse. Personne, depuis 15 ans, n'a trouvé que c'était complètement immoral.
Oh, si, quand même, on l'entend que c'est immoral, mais ça change pas la pratique.
Parce que je crie beaucoup.
Oui, mais c'est vrai. ça n'échappe à personne et on voudrait. De toute façon, on sait que de toute façon, ça sert à rien de vouloir vous en empêcher. Donc,
D'abord,
très bien. Très gentiment, mais c'est des réalités. Bon, je pense que c'est clair qu'on a trop rigidifié nos systèmes. Hein, excès de loi tue la loi, on a des démonstrations de bureaucratie, ça c'est clair. Je pense que tout ça, il faut aussi que chacun balaye dans sa porte. C'est souvent un certain nombre de mauvais comportements et que les organisations professionnelles, pendant un certain temps, ne faisaient pas de l'éthique la priorité de l'entrepreneur. Oui. Et ça, quand on demande à la loi de régler l'éthique, elle traite les plus mauvais, elle ne traite pas les meilleurs.
Mais maintenant elle commence à traiter les bons, c'est ça qui est embêtant.
Exactement, et c'est là où il faudrait pouvoir
arriver à
plus de contractualisation.
De liberté de travailler.
Mais une liberté contractuelle,
Mais c'est facile à mettre en place, ça, par exemple.
Non, ça ne doit pas être facile. Hein, parce que d'abord, bon, vous avez quand même toute la culture syndicale française qui n'est pas dans cette orientation.
J'étais alliée avec la CGT pour me battre.
Oui, mais ça c'est vos subtilités diplomatiques. Mais les entrepreneurs, les meilleurs, d'ailleurs,
souvenez-vous,
ça range toujours.
Souvenez-vous, monsieur le Premier ministre, les 35 heures, c'est monsieur Jospin qui les a voulu, pas la CGT. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc,
oui.
Monsieur Strauss-Kahn.
Oui.
Quoi ?
Monsieur Strauss-Kahn.
Oui, enfin, ça a été un truc promis et exécuté tout de suite, d'ailleurs.
On va conclure.
Mais ce n'était pas une demande.
Ce qui prouve d'ailleurs que...
Qu'on veut, on peut.
Oui, ce qui prouve que quand même, on peut faire des grosses réformes à condition, un, de les annoncer et deux, de les faire immédiatement après.
Exactement.
Donc, s'il faut aller très vite, je pense qu'on a été en effet trop loin. Je pense qu'il y a quand même un point d'espoir aujourd'hui, c'est que notre société devient moins idéologique et plus pragmatique.
Oui.
Je crois que...
Et il faut en tenir compte
en tenir compte.
La woke culture, pardonnez-moi, quand on interdit Dostoïevski parce qu'il y a une grève en Russie à la fac de Milan.
Oui, non mais
L'idéologie
ça, bon, mais elle existera toujours. Mais dans la société française, ça je peux vous dire, ça fait plus de 50 ans que je fais les tribunes de partout, je peux vous dire quand même qu'aujourd'hui, le pragmatisme, d'ailleurs l'émergence des femmes, d'ailleurs l'émergence de la société civile, d'ailleurs un certain nombre de phénomènes, pousse à ce que le pragmatisme s'impose. Donc ça, et c'est quand même un atout
une bonne
de Macron.
Nouvelle.
C'est quand même un atout de Macron de ce point de vue-là. Donc ça casse les codes politiques, mais ça quand même un certain nombre d'avantages. Et donc je crois que le fond de l'affaire, si on veut, c'est faire confiance à la société civile. C'est
oui,
ça, je pense.
Oui.
Et donc dérigidifier
en responsabilisant. Et en faisant qu'à l'intérieur de la responsabilité, il y a le volet éthique. Et c'est ça que je pense qu'il faut essayer de favoriser. Et l'éthique, c'est quoi ? C'est une profession qui, elle-même, fait sa bonne conduite. C'est pas la bonne conduite, par exemple, mais c'est ça, c'est je suis responsable. Qu'est-ce que c'est que ma responsabilité ? Et ma responsabilité, c'est ça. Et donc ma responsabilité, c'est un dialogue, mais c'est la fertilité du dialogue. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un certain nombre de dialogues qui sont devenus des organisations systématiques, dans lesquelles il n'y a pas de créativité.
Et rien ne sort de ça. Et il faut refaire le dialogue par ailleurs, parce que le dialogue formel est absolument insignifiant.
Merci Loïc de Floch-Prigent. Merci Monsieur le Premier ministre. Le mot de la fin pour notre président de éthique, des magnifiques panels avec un sujet inépuisable.
Un sujet inépuisable, mais le mot de la fin, il est pour notre Premier ministre. Je veux savoir ce qu'il fait demain matin, comment on fait pour changer vite, pour alléger, pour une sorte de spoil system. J'ai besoin de savoir comment on va nous libérer.
Alors demain matin, vous prenez votre téléphone, vous appelez Route Bézieux, vous appelez tous les professionnels, et vous dites, on va faire un manifeste sur la responsabilité du chef d'entreprise. Et en échange de cette responsabilité, on demande plus de liberté.
Hop là.
Car responsabilité et liberté, ça doit aller ensemble. Et il n'y a pas de liberté si on ne reconnaît pas notre responsabilité. C'est la part de l'intérêt public de l'entrepreneur. L'entrepreneur est un intérêt privé, mais il n'est pas qu'intérêt privé. Il est l'intérêt public. Parce qu'aussi, il faut de l'emploi dans notre société, il faut de la cohésion sociale, il faut aussi qu'on ait des outils d'invention, de technologie, de découverte. Et donc, il y a dans chaque entrepreneur une part d'intérêt public. Il faut que l'État reconnaisse cette part d'intérêt public. C'est dans sa responsabilité. Ça ne nie pas l'intérêt public. Mais puisque nous sommes dans une société complexe, reconnaissons la complexité de l'entrepreneur et de son métier.
Pour en savoir plus, je vous invite à lire ce livre « Choisir un chef » aux éditions Michel Lafon, écrit par Jean-Pierre Raffarin. Sophie de Monteau, vous avez choisi un très bon invité de conclusion avec les autres précédemment.
C'est ce que je fais.
Et merci infiniment de nous avoir suivis pour ce colloque éthique hébergé et en partenariat avec Web Radio Édition. Merci à vous.
Réindustrialiser la France, l'impossible relocalisation de l'industrie, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 9 mars 2022.